Bon, donc ce soir, nous allons envisager un autre aspect de cette évolution de l'Église au XIIIe siècle. C'est le début de la science expérimentale. C'est un peu logique que le XIIIe siècle voit le début de ce grand mouvement qui va alors complètement bouleverser la civilisation occidentale pour l'amener justement à l'état actuel, où la science est devenue souveraine et on pourrait même diviniser. Or, c'est un mouvement qui naît au XIIIe siècle, et qui naît au XIIIe siècle sous l'influence de l'Église. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a cette synthèse de la foi chrétienne avec la philosophie d'Aristote. Or, ce sont quand même les Grecs qui ont été les premiers à développer la science expérimentale. Et puis deuxièmement, parce que la théologie du XIIIe siècle a désacralisé la nature, alors que la nature était sacrée chez les païens, il y a eu une divinisation de la nature. Pour le christianisme, la nature est une création de Dieu, une créature de Dieu. Et qui plus est, selon le texte de la Genèse, l'homme a reçu de Dieu l'ordre de dominer la nature, de l'assujettir et de la dominer. Et par conséquent, le développement scientifique et par conséquent les retombées techniques qui en découlent, non seulement sont licites dans la vision du christianisme du XIIIe siècle, mais même doivent être encouragés. Nous avons vu que la démarche de Thomas d'Aquin, c'est la somme, c'est tout récapituler, tout rassembler dans un vaste système. Et il n'y a pas de différence entre la science et la foi. Il n'y a pas d'opposition. C'est un même mouvement. On passe de la science à la foi tout naturellement. On passe de la science naturelle à la révélation de Dieu, précisément en faisant abstraction de la révélation, justement. Et par conséquent, nous avons un ensemble de sciences qui forment un tout, un édifice complet, et qui sont en progression. Il y a une hiérarchie des sciences. On part des sciences de la nature pour arriver aux sciences de l'homme. Puis des sciences de l'homme, on passe à la philosophie, qui est une science pour les hommes du XIIIe siècle. Et puis on arrive à la clé de voûte de l'ensemble, de l'édifice, qui est la théologie, qui est au XIIIe siècle la reine des sciences. Et la théologie récapitule toutes les autres sciences. Ça veut dire que quand on étudie la théologie, automatiquement on est amené à toucher aux autres sciences. Car les autres sciences sont au service de la théologie. Et pour montrer précisément comment cette vision a des retombées extrêmement pratiques, pour mettre les sciences au service de la théologie, on commence au XIIIe siècle à étudier les langues anciennes. Bon, c'est une démarche d'ailleurs tout à fait positive. De cette démarche naîtra la réforme. La réforme du XVIe siècle sera précisément le résultat de cette évolution qui commence à ce moment-là. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur ce développement des sciences. Mais ce qui caractérise le XIIIe siècle, c'est un certain nombre de prises de position théologiques. Et là, on est obligé de mettre, à partir de la révélation biblique, de très 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 nombreuses réserves. La première réserve que l'on est amené à mettre, c'est en ce qui concerne la doctrine centrale de la Bible, c'est-à-dire la doctrine de la mort de Jésus. La mort expiatoire de Jésus. Ça, C'est un point avec lequel la théologie catholique a toujours eu des difficultés. Quelle est la valeur et la portée exacte de la mort expiatoire de Jésus? La théologie catholique ne nie pas la valeur expiatoire de la mort de Jésus, bien sûr, c'est une doctrine qui est trop centrale dans la parole de Dieu, mais par rapport au texte biblique, la théologie catholique en limite fortement la portée. Et au XIIIe siècle notamment, cette doctrine essentielle et centrale est laissée dans une imprécision, dans un flou artistique qui correspond à la vision sotériologique, ça veut dire la vision qui concerne le salut, qui est celle de l'Église catholique du XIIIe siècle. Par exemple, voici ce que nous dit Thomas d'Aquin. Pour lui, la mort de Jésus, quelque importante qu'elle soit, n'était pas le seul moyen pour le salut de l'homme. L'homme aurait fort bien pu obtenir de Dieu le pardon autrement qu'au travers de la mort de Jésus. Vous voyez l'énormité de ce que ce grand docteur de l'Église catholique est amené à proférer, à affirmer. Bon, l'Église catholique moderne, évidemment, est moins abrupte sur ce point-là, même si ça reste quand même. Ça veut dire que Dieu, s'il l'avait voulu, aurait pu faire autrement. Ou il aurait pu choisir un autre moyen de salut pour l'homme que celui de la mort de son Fils. Alors on peut poser la question, si Dieu aurait pu faire autrement, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi n'a-t-il pas épargné son propre Fils? Autre genre d'hérésie, car il faut bien appeler ça des hérésies, il n'en déplaise à cette Église qui pourtant se prétend grande pourfendrice d'hérétiques, n'est-ce pas? Autre hérésie majeure, Adam, par son mérite, s'est rendu digne de la grâce, de l'amour et du pardon de Dieu. C'est énorme. Adam, par lequel le péché est entré dans le monde, a fini par se rendre digne par ses mérites de la grâce de Dieu, être digne de la grâce de Dieu. Et ça, c'est le point fondamental de la doctrine catholique. La grâce de Dieu est quelque chose qui se mérite. Évidemment, c'est... On s'étonne, on est quand même stupéfait devant une telle affirmation que des gens quand même qui avaient une grande intelligence, comme Thomas et les docteurs de cette période-là, n'aient pas vu la contradiction dans les termes. Une grâce, c'est par définition gratuit, comme le rappelleront à juste titre les réformateurs. Et par conséquent, si nous avons à mériter la grâce de Dieu, ça n'est plus une grâce. C'est exactement ce que Paul explique dans l'Épître aux Romains. Et c'est bien pourquoi, précisément, l'Épître aux Romains sera le détonateur de la réforme lorsque Luther redécouvrira cela. Alors, comment Thomas s'en tire-t-il? Oh là, c'est subtil, vous allez voir. C'est-à-dire que pour mériter la grâce de Dieu, donc pour être sauvé, l'homme doit faire des actes méritoires, des œuvres. Mais ces actes méritoires qu'accomplit l'homme sont le résultat de la grâce de Dieu qui les accomplit en lui. Et si par malheur, ces actes méritoires n'étaient pas accomplis par la grâce de Dieu, mais par la seule action de l'homme, ils n'auraient aucune valeur aux yeux de Dieu. Donc, on arrive à cette espèce d'embrouillamini absolument incroyable, que la grâce de Dieu se mérite par des œuvres, mais que les œuvres méritoires sont inspirées par la grâce de Dieu. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Avec vous. Bref, on est ici dans toute la construction intellectuelle chère aux scolastiques, n'est-ce pas, finalement, et aux Grecs. Ce que on appelait les sophismes, c'est-à-dire finalement des raisonnements qui ont une apparence de sagesse, mais qui ne reposent sur rien du tout. Qui sont totalement... qui s'annulent eux-mêmes, des propositions qui s'annulent elles-mêmes. Alors, il y a un autre problème qui naît par rapport à cela, c'est le problème des enfants qui meurent, des jeunes enfants, qui meurent sans baptême. Puisque la grâce se confère par les sacrements, et les sacrements sont précisément les réalités qui inspirent des œuvres méritoires. Et ça, c'est encore typiquement dans la théologie catholique de nos jours. L'homme par lui-même, donc, n'est pas capable de mériter son salut. Et pour mériter son salut, il doit s'approcher des sacrements. L'Eucharistie, le baptême, le mariage, etc. Pénitence. Et quand il a reçu ses sacrements, alors il reçoit la force d'accomplir les œuvres méritoires par lesquelles il va être sauvé, par lesquelles il va recevoir la grâce de Dieu. Alors on va dire pourquoi la grâce de Dieu ne lui serait pas donnée tout de suite. Mystère, mystère, mystère. Ça, l'Église catholique ne répond pas à ce problème. Bon. Et c'est pourquoi il est important de baptiser les bébés. Car le bébé qui est baptisé, il va être capable, quand il va grandir, d'accomplir des actes méritoires par lesquels il va faire son salut. C'est pourquoi il est important, quand on se marie, de passer par le sacrement du mariage. Car autrement, on n'aurait pas la force spirituelle de vivre les engagements du mariage. C'est pourquoi, pauvres de nous, protestants qui n'avons pas le sacrement du mariage, comment pouvons-nous vivre dans le mariage? Et c'est pourquoi, jusqu'à la Révolution française, eh bien, les protestants n'étaient pas considérés comme mariés, ils étaient considérés comme vivant en concubinage, si longtemps qu'ils n'étaient pas passés devant l'Église catholique. Et alors se pose le problème des enfants qui meurent sans avoir été baptisés. Qu'est-ce qu'il arrive d'eux? Bon, s'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Puisque le baptême confère la nouvelle naissance. Et s'ils ne sont pas chrétiens, bah, logiquement, ils vont en enfer. C'est logique. Enfin, Thomas se rend bien compte tout de même que c'est un peu fort de condamner des enfants comme ça, bien que coupables du péché originel, dixit Thomas. C'est un peu fort quand même de les condamner en enfer comme ça. Alors de la même manière que quelques dizaines d'années plus tôt, on avait inventé le purgatoire, car on l'a inventé à cette période-là. Eh bien, Thomas de la ressource. C'est pas l'imagination qui fait défaut. Alors il crée un nouveau compartiment dans l'au-delà. Alors il y avait déjà le paradis, l'enfer et le purgatoire. On en crée un quatrième. C'est les limbes. Qu'est-ce que c'est que les limbes? C'est un endroit précisément où vont les enfants morts sans baptême. Alors quel est cet endroit-là? Bien, c'est un endroit neutre. On n'y souffre pas, mais on n'est pas non plus heureux. Ces malheureux enfants qui vont dans les limbes, ils ne souffrent pas comme les damnés dans l'enfer, mais ils seront pour toujours privés de la présence de Dieu, donc de la joie éternelle. Finalement, c'est pas formidable, quoi. Alors voilà, on trouve ici un nouvel élément qui est évidemment non biblique, ça va de soi. Car vous avouerez que pour trouver une astuce pareille, il faut y penser. Alors, Ici, on est en plein dualisme grec. D'où vient le péché ? Le péché vient du lien avec le corps. Quand un enfant est conçu dans le sein de sa mère, Dieu crée spécialement pour lui une âme. Et à partir du moment où cette âme qui est pure, sainte, se trouve mélangée dans ce corps abominable qui a été conçu dans le péché, puisque tout acte sexuel est un péché, même celui qui est accompli dans le cadre du mariage, pour les catholiques. Donc quand cette âme pure se trouve mélangée à cette méprisable enveloppe matérielle qu'est le corps, elle devient pécheresse, parce que c'est le corps qui est le péché. Bon, on retrouve là le gnosticisme. Il suffit de relire l'Épître aux Colossiens, il suffit de relire 1 Corinthiens 15, les doctrines des Nicolaïtes, bon, c'est exactement ça. On revient ici au XIIIe siècle, dans les vieilles hérésies chrétiennes des premiers siècles. Les vieilles hérésies gnostiques, elles ressurgissent à fond. Voyez-vous, le catholicisme est un ramassis d'hérésies. Toutes sortes d'hérésies trouvent droit de cité en son sein. C'est le corps qui est péché, et c'est lui qui fait pécher l'âme. Alors là, on arrive aussi dans une... Non, vraiment, l'embrouillamini d'une subtilité extrêmement profonde, chère à Thomas. Car malgré cela, malgré le péché, pour Thomas, la chute n'est pas complète. La nature humaine n'est pas totalement corrompue par le péché. L'homme continue à être l'image de Dieu. Il n'y a qu'une partie de cette image qui est corrompue par le péché. Et notamment, l'homme reste capable par lui-même de pratiquer ce qui est juste et ce qui est bien. Et dans cette... Et ça, c'est fondamental, attention, c'est là l'hérésie majeure, tout part de là. Car s'il en est ainsi, si l'homme est capable par lui-même de faire le bien, qu'est-ce que va être le salut ? Ça va être simplement la correction de ce qui est mauvais et le perfectionnement de l'ancienne nature pour que petit à petit cette nature pécheresse s'améliore et devienne de plus en plus sainte. Vous allez me dire, mais comment c'est compatible avec l'idée que le matériel est intrinsèquement mauvais. Le corps est intrinsèquement mauvais, est intrinsèquement pécheur. Mais justement, vous répond Thomas, c'est bien pour ça qu'il faut mortifier le corps. C'est bien pour ça que l'œuvre du salut, l'œuvre de la grâce, le perfectionnement auquel est appelé le chrétien, ça consiste précisément à se dégager de plus en plus de cette pesanteur du corps. Et par conséquent, eh bien, le salut, c'est quelque chose qui s'accomplit par des œuvres d'ascèse. D'où l'idéal monastique, qui est celui du Moyen-Âge, et le fait que l'on se flagelle, que l'on se mortifie, que l'on jeûne, que l'on monte à genoux des marches, 300 marches les unes après les autres, qu'on porte la cilice et toutes sortes de choses semblables. C'est précisément pour se perfectionner et pour s'améliorer. Et la grâce, alors, dans tout ça ? Eh bien, la grâce, c'est la pénétration de la puissance divine, dit Thomas, dans la nature humaine. La pénétration de cette puissance divine dans la nature humaine. Ça veut dire que l'homme collabore à son salut. Il se saisit d'un élément qui va lui permettre de faire son salut, qui lui est donné par Dieu, mais c'est lui qui fait son salut. De la même manière, si vous voulez, que pour entretenir, pour grandir physiquement, l'enfant doit se saisir de la nourriture qui lui est apportée, de la même manière, le chrétien se saisit de la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir les œuvres méritoires. Et ces œuvres-là, pardon, cette grâce de Dieu lui est surtout conférée dans les sacrements. Alors vous comprenez bien pourquoi, nous avons dit tout à l'heure, eh bien, le problème de la mort expiatoire du Christ se pose. Car, si c'est ainsi, si nous avons des moyens de grâce dans les sacrements, qu'il faut utiliser pour s'améliorer soi-même, qu'est-ce que vient faire dans tout ça la mort du Seigneur ? On ne va pas très bien. C'est un élément gênant dans tout ce système bien coordonné. C'est une construction intellectuelle magnifique, le catholicisme, quand on le considère de cette manière-là. Et alors, la grâce pousse l'homme aux œuvres bonnes et au mérite. Et Thomas dit très explicitement quel est le but qu'il poursuit. Il dit voilà, il s'agit de laisser à Dieu l'honneur de la rédemption et à l'homme la gloire de son salut. Voilà, c'est une très belle formule, mais qui est extrêmement antibiblique et redoutable. Il s'agit de laisser à Dieu l'honneur de la rédemption et à l'homme la gloire de son salut. Ça veut dire que puisque l'homme n'est pas entièrement déchu, eh bien, il ne faut pas l'humilier. Et ce sera le grand reproche qu'on fera aux réformateurs, au Concile de Trente, c'est que finalement, l'homme n'est plus rien devant Dieu. Il n'est plus qu'un être totalement perverti, totalement déchu, qui ne peut plus rien par lui-même. C'est horrible, c'est à humilier l'homme, c'est l'abaisser. Or, cet homme, c'est l'homme du Moyen-Âge, c'est l'homme du XIIIe siècle. C'est l'homme qui a construit les cathédrales. C'est l'homme qui a construit un vaste empire sur toute la terre. Cet homme-là, il ne peut quand même pas être aussi déchu que ça. Alors, il faut lui laisser une gloire, la gloire de son salut. Et le type le plus parfait de cet homme-là, c'est le moine, car le moine est celui qui précisément fait son salut et qui a la gloire de faire son salut. Et c'est pourquoi Thomas reconnaît que la grâce agit d'une manière plus ou moins importante selon les individus. Et il y a ceux, comme les moines, où elle agit évidemment d'une manière beaucoup plus profonde que dans le vulgus pecus. Mais cette grâce, chacun la possède. Il peut en faire ce qu'il veut. Et dans la mesure où il utilise cette grâce, il peut montrer l'amour de Dieu. Comme nous l'avons vu, cette grâce, elle est conférée par les sacrements. Or, les sacrements, ils sont le monopole exclusif de l'Église. C'est pourquoi l'Église est le moyen de salut obligé. On ne peut pas faire son salut en dehors de l'Église. D'où le slogan qu'on retrouvera au Concile de Trente et jusqu'à nos jours. Hors de l'Église, pas de salut. Car qu'est-ce que l'Église ? Eh bien, l'Église, c'est l'organisme qui gère les grâces de Dieu. Et c'est à considérer en relation avec le culte de Marie. Finalement, Marie est l'idée que l'Église catholique a d'elle-même. Marie est l'image de l'Église. Et alors, à partir de Thomas, même avant, mais surtout à partir de ce moment-là, on interprète un verset de Luc d'une manière qui est extrêmement dangereuse et qui est basée sur la traduction de Jérôme, la traduction latine de Jérôme, qui, n'oublions pas, au Moyen-Âge, est la Bible officielle de l'Église catholique, c'est-à-dire la seule Bible qui soit inspirée. Donc, chaque mot est inspiré. Or, quand il a traduit la salutation de l'ange à Marie, vous savez, au moment de l'Annonciation, Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Jérôme, c'est complètement fourvoyé, et il a traduit cette expression par « gratia plena », pleine de grâce. Et à partir de cette erreur de traduction majeure de Jérôme, l'Église catholique a construit toute une théologie mariale. Marie serait donc pleine de grâce. Ça veut dire qu'elle serait dépositaire des grâces. Toutes les grâces sont en elle. Toutes les grâces que l'homme peut souhaiter sont en Marie. Par conséquent, il faut aller à Marie pour recevoir la grâce. Puisque Marie, qui a reçu ses grâces de Dieu, de son Fils, est en quelque sorte celle qui les distribue. D'où un autre slogan de l'Église catholique, à Jésus par Marie. Il faut aller à Jésus en passant par Marie. Parce qu'elle est la dépositaire des grâces. Mais ce n'est pas seulement Marie qui est dépositaire des grâces. Car Marie, c'est l'image de l'Église. Et c'est donc l'Église qui est dépositaire des grâces. C'est donc dans l'Église, par l'Église, qu'il faut trouver les grâces dont on a besoin. Et alors, nous avons vu la dernière fois comment Jérôme codifie la doctrine des sept sacrements, qui selon lui remonte au Christ, et qui seuls rendent l'homme digne d'être sauvé. Et voyez-vous encore cette insistance sur le mot la dignité de l'homme d'être sauvé. Donc c'est la négation totale, comme l'ont bien vu les réformateurs, de la grâce, car la grâce n'implique pas de dignité, justement. Et alors il y a cette doctrine énorme à laquelle aboutit Thomas, de l'ex opere operatu. Ça veut dire les sacrements opèrent en eux-mêmes par leur force, la force qui est la leur, à savoir, voilà exactement ce que dit Jérôme, si l'intention de celui qui confère le sacrement est conforme à l'intention de l'Église, les sacrements sont alors efficaces indépendamment du caractère moral et de celui qui les administre et de celui qui les reçoit. C'est magnifique. Ça veut dire que vous pouvez avoir un prêtre qui est complètement déchu, et à l'époque de Jérôme, il n'en manquait pas, qui a des maîtresses par-ci et par-là, qui a tué père et mère, etc., qui a pratiqué la simonie, qui a accumulé les bénéfices ecclésiastiques, mais s'il prononce les paroles rituelles dans la communion de l'Église catholique, il a beau être le dernier des voyous, le dernier des brigands, eh bien, il va conférer la grâce à celui qui reçoit le sacrement. Or, celui qui reçoit le sacrement peut être au même point moral que lui, peut être aussi le dernier des brigands, le dernier des... Mais si il est dans la communion de l'Église catholique, il reçoit alors la grâce de Dieu. Les sacrements confèrent la grâce par leur propre pouvoir. Alors, il y a ici cette idée que l'Église est la gardienne temporelle de la grâce. Et c'est pourquoi le pape est celui qui détient les clés du royaume. Et là, on prend le texte de Jésus à Pierre, je donnerai les clés du royaume de Dieu. Donc, le pape, de par ce pouvoir des clés qu'il a reçu du Christ, qu'il aurait reçu du Christ, bien sûr, je mets ça au conditionnel, parce que je ne reprends pas mon compte, vous le pensez bien, eh bien, a le pouvoir de puiser dans ce trésor des grâces pour les distribuer. Et il peut faire ça non seulement en faveur des vivants, mais aussi en faveur des défunts. Il peut ainsi conférer des grâces spéciales en faveur des défunts. Par exemple, à l'occasion s'il publie une année sainte. Alors, dans certaines conditions, ceux qui rempliront les conditions édictées par le Saint-Père verront pouvoir accorder ces grâces aux défunts. Alors on se demande pourquoi, si ces malheureux défunts souffrent ainsi terriblement dans ce purgatoire, qu'est-ce que le pape qui a le pouvoir de les en délivrer attend pour le faire ? Ben, ça, faut lui demander. Faut lui demander. Mais qu'est-ce qu'il attend pour s'en sauver lui-même ? Car selon la doctrine catholique, il y a pas mal aussi de papes qui se retrouvent au moins en purgatoire. Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour aller tirer de là leurs collègues qui sont partis avant eux ? Faut leur demander. Enfin, on n'en est pas dans une logique ici imperturbable, hein, on se rend compte. Alors voilà en gros, si vous voulez, les principales innovations théologiques qu'on trouve au XIIIe siècle. Autant dire qu'ici, c'est le parachèvement du catholicisme, de la doctrine catholique qui va être fixée maintenant pour l'éternité. Enfin, pour l'éternité. Non, heureusement. C'est-à-dire jusqu'au jugement. Jugement de Dieu. Hein? Mais en tout cas, ça a pu bouger à partir de maintenant jusqu'à nos jours. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la doctrine catholique. Ça, il faut le savoir. Alors, selon les nécessités du moment, on va habiller ça sous des formules un peu différentes. Même éventuellement, on n'hésitera pas à laisser de côté quelques-unes de ces affirmations les plus abruptes. Mais elles sont là. Et quand on en a besoin, quand les circonstances sont favorables, on les ressort. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait, voyez-vous, un congélateur. Alors, de temps en temps, quand il n'a plus besoin d'un certain nombre de choses, il met au congélateur, puis quand il a besoin, il ressort. Alors, il ne faut pas se laisser leurrer. Et nombreux sont... Alors, vous comprenez bien comment, dans le dialogue œcuménique, l'Église catholique s'est bien gardée d'insister sur un certain nombre de ces choses-là. Mais c'est là. Et ça ressort. Ça ressort quand il le faut. Et ça, c'est l'œuvre du XIIIe siècle. Voyez-vous, le XIIIe siècle est un siècle, sur ce plan-là, catastrophique. Et alors, il porte en lui les germes de la réforme, c'est sûr, par ses excès mêmes. À côté de cet aspect théologique, le XIIIe siècle voit aussi le développement de l'art et de la littérature inspirés par le christianisme. Nous sommes dans un siècle, d'ailleurs, qui va surtout... Bon, qui est caractérisé par la dernière époque du gothique, ce qu'on appelle le gothique flamboyant, on en a parlé la dernière fois, mais aussi de la peinture, de la sculpture, qui prépare le grand essor artistique de la Renaissance, notamment en Italie, ce qu'on appelle le Trecento, en italien, c'est-à-dire le 13e. Et là, disons l'art moderne, trouve ses racines, je veux dire. Enfin, l'art moderne, je veux dire, l'art qui s'est développé à partir de la Renaissance. D'abord, sur le plan de la littérature, à côté de la littérature proprement chrétienne, il y a une littérature profane qui naît. Bon, nous avons vu, par exemple, la Divine Comédie de Dante, qui est un petit peu la charnière, c'est à la fois profane et sacré. Et puis, alors, on a des œuvres littéraires tout à fait profanes. Par exemple, le roman de Renard, date de cette période-là. Le roman de la Rose. Nous avons des véritables guildes d'artistes qui se créent. C'est notamment le cas pour ceux qui vont construire les cathédrales. Hein. Pour la petite histoire, puisque ça nous touche ici, nous, dans notre région, c'est l'époque où va être construite la cathédrale du Mont-Saint-Michel. Hein. dont Saint-Michel est typique de cette dernière époque du gothique flamboyant. Or, ces guildes-là sont très élaborées, très très sophistiquées. On n'y entre pas comme ça. On devient d'abord apprenti. Et puis, quand on a fait ses preuves en tant qu'apprenti, on devient journalier. Ça veut dire que on peut être employé à temps partiel et puis mis sur le pavé s'il n'y a pas de travail. Donc c'est un statut extrêmement précaire. Et on devient seulement ouvrier qualifié quand on en a fait l'épreuve, c'est-à-dire que l'on a passé un examen devant ses pairs. Et cet examen consiste par exemple à faire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Ça veut dire une œuvre dans laquelle on met toute sa technique, toute sa connaissance, la somme de ses connaissances. Bon, c'est le cas, par exemple, pour les artisans, mais ça peut être, par exemple, dans le domaine des avocats ou des médecins, des gens comme ça, ça prendra la forme d'un véritable examen, d'un questionnaire. Là, on est interrogé par les pairs, et puis ils jugent si on est digne ou pas. Si on est digne, alors on devient ouvrier qualifié. Et à ce moment-là, bien, on a le droit à un certain nombre de privilèges, ainsi nous allons voir dans un instant. Bon, ce sont ces guildes-là qui développent les arts. Bon, la sculpture, par exemple, qui va orner notamment les frontons des cathédrales, où on voit un petit peu l'idée que l'Église avait d'elle-même au XIIIe siècle. Ce qui est typique de ces églises, si vous prenez le Mont-Saint-Michel, par exemple, c'est l'idée du triomphe du Christ. On n'est plus comme dans les siècles précédents où on représentait les souffrances du Christ. Là, on présente le Christ en gloire. Par exemple, au fronton des cathédrales, vous avez souvent le Christ en gloire, en majesté, assis à la droite du trône de Dieu, Marie à sa droite, les saints, les apôtres, et puis ensuite la multitude des rachetés. De temps en temps, on le voit, ou on voit quelque ange en train de terrasser le démon, notamment justement le Mont Saint-Michel, où l'archange Michel terrasse le démon. Hein. Et en même temps, se développe sur le parvis des cathédrales, qui sont le livre des idiots, comme on dit en ce temps-là, hein, livre des saints, de ceux qui ne savent pas lire, eh bien, la représentation de ce qu'on appelle les miracles et les mystères. Les miracles et les mystères, ce sont des pièces de théâtre sacré, où l'on représente les grands thèmes de la Bible. La nativité, par exemple, au moment de Noël. La passion pendant la semaine sainte. Et ces drames sacrés sont représentés bien souvent sur justement le parvis des cathédrales. Bon, c'est une coutume qui a déjà pris naissance à partir du XIe siècle, mais qui, sous l'influence des franciscains notamment, va se développer d'une manière très importante au XIIIe siècle. Or, c'est intéressant car nous avons vu que les franciscains sont essentiellement un ordre prêcheur. Et pour prêcher l'Évangile, ils ont trouvé commode, à partir de cette période, de représenter des pièces de théâtre. Alors, comme disent parfois certains auteurs de romans, toute ressemblance avec des personnages actuellement vivants ne serait que fortuite et ne serait que le résultat du hasard. Enfin, vous voyez bien que là, il y a une continuité, quoi. Avec maintenant l'accent mis sur les arts, que ce soit les arts plastiques, peinture, sculpture, que ce soit l'art théâtral, qu'on retrouve maintenant dans les milieux évangéliques, eh bien, je m'excuse, mais c'est la même démarche d'esprit. C'est la même hérésie. La même hérésie. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les évangéliques qui ont remis en honneur César, entre guillemets, pour prêcher l'Évangile, croient avoir été des innovateurs dans le genre. Ben, ils ont oublié de regarder dans l'histoire de l'Église. C'est très important d'étudier l'histoire de l'Église parce qu'on se rend compte que eh bien, il y a des constantes qui demeurent, quoi. Et qui demeurent tout simplement de la même idée, c'est-à-dire de l'évolution d'une société qui abandonne, d'une église qui abandonne la prédication de la parole de Dieu, parce que c'est plus facile, évidemment, de donner aux gens du spectacle que de leur prêcher la parole de Dieu. Et comme on veut toucher du monde, et c'est le but au XIIIe siècle, eh bien on abandonne la prédication de la parole pour le faire par, justement, le théâtre. Bon, dans la même idée, on développe aussi le symbolisme des ornements ecclésiastiques. Les clercs, notamment quand ils officient, sont parés de toutes sortes d'atours plus ou moins chatoyants. Le violet pour les évêques, le pourpre pour les cardinaux, etc. Toutes choses qu'on retrouve aujourd'hui, et qui a le même but, d'impressionner le public, lui montrer qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, et que, somme toute, s'il ne comprend pas tout, qu'il sache quand même qu'il y a quelque chose là, au bénéfice de quoi il est, sans même s'en rendre compte, mais enfin, c'est comme ça. C'est aussi l'époque où se développent les chroniques historiques. Et notamment, nous avons parlé du plus célèbre historien de cette période-là, qui est Joinville, le chroniqueur de la cour de Louis IX, celui que l'Église catholique appelle Saint-Louis, et qui a fait un travail historique, somme toute, quand même très intéressant. Nous avons aussi la création, alors là, surtout en Allemagne, de toute une littérature, alors beaucoup plus discutable. Une littérature qui est une espèce de synthèse entre le vieux fond païen des Germains pré-chrétiens, et puis finalement, toute, n'est-ce pas, la mystique catholique qui est née dans le Saint-Empire romain germanique et qui va avoir des conséquences extrêmement graves jusqu'à nos jours, parce que ce sont elles qui vont inspirer le nazisme, indirectement. Alors, c'est toutes les légendes du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, toutes ces choses-là, où on trouve deux choses. L'exaltation de la force brutale, mais la force au service du droit. Et ce qui est vraiment l'idéal de l'Église catholique dans cette période-là. En quelque sorte, humaniser la guerre, canaliser la violence de l'homme. Bon, il ne peut pas, il ignore la conversion, il sait bien que la conversion, de toute façon, ne peut toucher qu'un petit reste, comme dit la Bible. Alors, on a abandonné cette option de la conversion, qui a été quand même l'idéal jusqu'au XIe siècle. Mais au XIIIe siècle, on a abandonné cet idéal-là pour celui de l'amélioration progressive. Alors, il s'agit de canaliser ce qui est mauvais dans l'homme. D'où, par exemple, la réglementation de la guerre, qu'on trouve à cette période-là, nous allons voir ça dans un instant, moi, si le temps nous le permet, avec la trêve de Dieu, le chevalier qui a un code d'honneur, qui, avant de recevoir ses armes, doit passer la nuit en prière dans le jeûne, etc., qui se voue à différents saints, etc. Donc, cette idée qu'il faut humaniser un petit peu les choses, et les légendes du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde. Et puis alors, un autre thème très important, c'est le thème de la quête du Graal. Le Graal, qui est la coupe d'or, n'est-ce pas, dans laquelle on a recueilli le sang du Christ. Or, ce Graal, cette coupe d'or, qui évidemment est une relique des plus précieuses, eh bien, a mystérieusement disparu. Elle est cachée quelque part, gardée même par des monstres. Et évidemment, nous sommes encore à l'époque des croisades, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un stimulant pour la croisade, car on part en croisade pour différentes motivations, mais une des motivations possibles, c'est pour chercher des reliques. Et ce sera aussi une des motivations de Louis IX. Louis IX qui rapporte, souvenons-nous-en, de la croisade, les épines de la couronne du Christ. Et bien entendu, plus on a des reliques précieuses, plus en même temps c'est d'une valeur marchande, première chose. Les reliques se vendent au Moyen-Âge et chères et très chères. Mais en même temps, plus on a des reliques qui touchent à la personne du Christ, et plus ces reliques-là sont précieuses. Et la plus précieuse de toutes les reliques, c'est le Graal. Et ce moyen-là, cette exaltation du Graal, va pousser sur les chemins de Terre Sainte des foules de chevaliers qui, autrement, peut-être ne seraient jamais allés s'éteindre. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un attrape-bigot inventé par l'Église catholique pour redonner un petit peu de zèle à une croisade qui s'essouffle. Alors, pour rendre plus attractive cette quête du Graal, il y a toutes sortes de légendes. Légendes qui naissent, n'est-ce pas ? Et ce sont ces légendes qui vont servir de toile de fond à toute cette littérature qui naît à cette période-là. Et alors, cette quête du Graal est mélangée avec des motifs mythologiques qui n'ont rien de chrétien. Le Graal gardé par des monstres, que le preux chevalier doit tuer pour pouvoir s'en emparer, qui rejoignent les vieilles légendes germaniques, pré-chrétiennes, nordiques. Et puis carrément, puisque maintenant on arrive aussi à toute une littérature laïque, une littérature séculière, disons plutôt. Le roman de Renard, évidemment, n'a rien de chrétien. C'est évident. C'est même le contraire des principes chrétiens. Et c'est intéressant, justement, parce que là, c'est une sorte de soupape de sécurité. Bon, si on met en principe le sermon sur la montagne, on se fait rouler constamment. Si on tend la joue droite, si on est frappé sur la joue gauche, on sera toujours... en bas d'échelle sociale, c'est évident. Mais comme ce sont les principes officiels, on ne peut pas les contourner comme ça d'un revers de main, sinon on devient méchant. Mais alors on dit, c'est bien beau ces principes chrétiens, mais de temps en temps, il faut faire preuve d'un petit peu d'astuce quand même. Et on a Renard, qui est un animal. Mais un animal astucieux. C'est un chrétien, Renard. Il va même à la croisade, à la fin du roman de Renard. Mais c'est un chrétien malin. Il sait se débrouiller. Alors, si vous voulez, c'est une manière déguisée de dire le christianisme, c'est bien beau, mais de temps en temps, il ne faut pas hésiter à en prendre un petit peu à son aise, quitte ensuite à faire pénitence. On a aussi alors un autre exemple, cette fois-ci en Espagne, de l'idéal, c'est le Cid. Le Cid qui sera repris beaucoup plus tard par Corneille. Mais le Cid qui est le héros qui va à la croisade contre les Maures, non pas en Terre Sainte, mais tout près de chez lui en Espagne, la Reconquista, la Reconquête. Et qui en même temps est un chrétien, mais un chrétien d'un genre très particulier. Il est le Matamoros, celui qui tue les morts. C'est le Zara. C'est toute une vision païenne, paganisante du christianisme. Et la boucle est complètement bouclée maintenant, quand on revient carrément aux vieilles légendes germaniques, comme par exemple les Nilbuggen. C'est ça comme ça qu'on dit ? Nilbuggen, l'anneau de Nilbuggen. Entendu parler de ça, quelque chose comme ça.
Nibugen.
Non, c'est en allemand, c'est le G, c'est bien C, ça c'est dit gueux, non?
Tout développé de.
Ah, j'ai pas compris. Nibugen. Je sais pas ce que c'est, ça va être. Ça va être à peu près ça. Peu importe. Il n'y a pas de germanisant ici qui va pouvoir me tirer les oreilles. S'il y en a qui écoutent cette cassette un jour, ils me pardonneront. Mon massacre de la langue allemande. Mais vous savez, c'est toutes les légendes des dieux. Les dieux germaniques, qui sont des dieux sanguinaires, qui sont des dieux guerriers, et qui glorifient la force brutale, et qui cherchent à s'emparer, par exemple, de l'or du Rhin. Alors, il y a des batailles terribles, épiques entre eux, ça se massacre là-dedans. Et puis, ce sont des dieux très humains, qui sont adultères, qui se volent les femmes des uns des autres, qui se massacrent pour les femmes, tout ça. Enfin, il y a tout. Et alors, ces vieilles divinités qui stimulaient et qui finalement finissent par périr dans un immense cataclysme qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Il y a une fin du monde monumentale, et le héros, c'est celui qui meurt au combat. on trouve ça, par exemple, c'est le pendant de l'islam, quoi. Hein. Le guerrier d'Allah qui meurt dans la djihad, dans la guerre sainte, pour la cause de l'islam, est assuré du paradis. De la même manière, le guerrier qui meurt au combat va dans le walala, le paradis des dieux. Ça. Eh bien, cette épopée du Nil Bugen, qui naît au XIIIe siècle, qui renaît au XIIIe siècle à partir des vieilles mythologies pré-chrétiennes, montre que finalement, les Allemands de cette époque-là n'ont pas renoncé à cette vision païenne. Et souterrainement, parallèlement au christianisme, ça a continué à exister. Et ça existe jusqu'au nazisme. Ça existe avant le nazisme avec Wagner. Wagner s'est inspiré de ces légendes-là. Et justement, il y a ça s'appelle l'Anneau de Nibelungen, les quatre opéras, la tétralogie de Wagner, c'est pas, qui retrace cette épopée de ces dieux, c'est pas, et qui a inspiré Hitler. L'idéal du nazisme, c'était l'idéal de l'homme, de l'homme divinisé, qui a pris en main son propre destin et qui établi par la force brutale sa domination, éliminant les faibles, donc s'opposant à fond au christianisme. Voyez-vous ? Maintenant, à côté de cela, il y a des apports positifs de l'Église du XIIIe siècle, indéniablement, notamment sur le plan social. Précisément parce que, à cause de cette vision de la perfectibilité de l'homme, il était normal que l'Église catholique du XIIIe siècle s'attache à améliorer la situation sociale des hommes les hommes de son temps. Innocent III, par exemple, ce grand pape pourfendeur d'hérétiques, est celui qui crée les hôpitaux, les hôtels-dieux, où les malades sont reçus gratuitement et soignés gratuitement par des moines ou des religieuses. C'est sous l'instigation de l'Église catholique que se créent précisément ces ligues d'artisans dont on a parlé pour la construction des cathédrales et qui ont une vision sociale extrêmement élaborée qu'il faudra attendre notre siècle pour pouvoir avoir quelque chose d'équivalent. Voyez-vous, le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une période d'obscurantisme. L'obscurantisme du Moyen-Âge dont on parle, c'est un mythe, c'est le mythe qui est né à la Révolution française, mais le Moyen-Âge n'était pas une période obscurantiste sur le plan social. Au contraire. Par exemple, il y avait certainement au Moyen-Âge une beaucoup plus grande liberté qu'il y en a dans notre siècle, dans certains domaines. Pas dans le domaine religieux, hélas, mais dans d'autres domaines, oui. Par exemple, les pouvoirs des villes, des municipalités, étaient beaucoup plus importants que ne le sont les pouvoirs des municipalités de nos jours. Et alors, les corporations, les ligues professionnelles, commerciales par exemple, se développent à cette période-là. Et l'une des plus célèbres est la Ligue hanséatique, qui couvrait donc tout l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique. Or, déjà à ce moment-là, ceux qui avaient le privilège de travailler dans ces ligues-là travaillaient 8 heures par jour. Quand on sait qu'au XIXe siècle, il y avait des enfants qui travaillaient des 12 heures et des 15 heures par jour, vous voyez que par rapport au Moyen-Âge, c'était une sacrée régression. Les villes étaient représentées au gouvernement, elles avaient leur mot à dire. Ces mêmes guildes, elles avaient un système d'assurance, assurance maladie. Si quelqu'un tombait malade, était frappé d'une incapacité de travail, il était pris en charge par la Ligue. Il y avait un système de retraite. À partir d'un certain âge, on était dégagé et on recevait une pension. Il y avait même un fonds à la Ligue hanséatique pour racheter ceux qui avaient le malheur, dans leur pérégrination, d'être faits prisonniers par les pirates. Ils étaient à peu près sûrs d'être rachetés. La rançon pouvait être payée. Et pour, éventuellement, si jamais les pirates n'obtempéraient pas, on avait même une flotte de 20 navires pour donner la chasse aux pirates qui avaient enlevé quelques-uns des membres de la Ligue. Bon. À côté de cela, c'est aussi une époque où naissent un certain nombre d'inventions qui vont révolutionner les siècles suivants sur le plan technique. Et ça, c'est dû à deux choses. Premièrement, les contacts avec l'Orient, à travers des croisades, et puis au-delà de l'Orient du Moyen, du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient plutôt, il y a même à cette époque-là des gens qui vont être assez audacieux pour, eh bien, entrer en contact avec l'Extrême-Orient, l'Inde, la Chine, et éventuellement même le Japon. Bon, c'est... Voyage, ces hardis voyageurs ont deux buts. Premièrement, un but d'évangélisation. Et puis aussi, un but de curiosité, d'exploration. Et le plus célèbre d'entre eux est Marco Polo, un Vénitien, qui atteint la Chine. Et de la Chine, il rapporte un certain nombre d'inventions qui vont avoir un impact extraordinaire sur le développement de la civilisation occidentale. Le plus important, c'est la boussole que les Chinois avaient inventée. Et la boussole va permettre maintenant aux navigateurs de s'affranchir du cabotage, car on ne naviguait qu'en vue des côtes. On était incapable de se diriger autrement jusque-là. Avec la boussole, on va pouvoir s'affranchir de ça. Et c'est précisément la boussole qui, deux siècles plus tard, va permettre les grandes découvertes, qui va permettre à Christophe Colomb de traverser l'Atlantique, et puis ensuite aux autres explorateurs, eh bien de se répandre dans le monde entier. Autre invention qui va avoir aussi un grand retentissement à cette période-là, c'est la découverte en Chine par Marco Polo de la poudre à canon. Alors, bien entendu, il va encore falloir quelques décennies pour que ça se développe, mais dès le siècle suivant, pendant la guerre de Cent Ans, par exemple, on va avoir les premières bombardes, les premiers canons, les premières caronades, et plus tard, les premiers mousquets, c'est-à-dire les armes individuelles. Et puis alors, une invention dont on ne voit pas très bien l'utilité pour l'heure, le pétrole. Le pétrole, bon, on s'en sert pour se frictionner quand on a des rhumatismes, paraît-il que c'est très bon. On s'en sert pour commence à s'éclairer, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire parce que ça fume énormément. Ça fait plus de fumée que de lumière. Alors on préfère finalement rester aux vieilles techniques d'éclairage. Si bien que le pétrole, pour l'heure, c'est pas quelque chose qui va être révolutionnaire. Mais attendons encore quelques siècles. Et puis, évidemment, on verra la fortune que ce pétrole va connaître. Autre invention, à cette période-là, c'est l'invention de la lunette. La lunette, astronomique, qui va avoir, d'abord, une vision terrestre. On va pouvoir voir de loin les objets. Sur le plan militaire, ça va être, il va y avoir des applications. Mais surtout, c'est sur le plan de l'astronomie que la lunette va être utilisée. Et des gens comme Galilée, comme d'abord Copernic, qui est le premier à inventer la lunette, à l'utiliser en tout cas pour des fins d'observation astronomique, eh bien, on va avoir maintenant un essor de l'astronomie qui va naître à partir de cette période-là, parce qu'on va pouvoir avoir forcément des observations astronomiques beaucoup plus précises possibles. C'est aussi l'invention du pendule, donc pour mesurer le temps, du verre et du papier. Et c'est pourquoi cette période voit aussi, et c'est le dernier point, on va terminer par là notre étude du XIIIe siècle, la formation des universités. Les universités sont le résumé, si vous voulez, de tout à la fois ce développement des sciences, des arts, des techniques et des différentes découvertes qui naissent à cette période-là. Bon, les universités ne sont au départ rien d'autre que des guildes d'étudiants. De la même manière qu'il y avait des guildes de maçons, des guildes de tailleurs, des guildes de sculpteurs, il y a des guildes d'étudiants. C'était déjà le cas, par exemple, dans la Grèce antique. On ne fait que reprendre, ce faisant, ce qui se faisait à cette période-là. Et ces étudiants, leur but, c'est quoi ? C'est de devenir professeurs. c'est-à-dire d'obtenir une licence d'enseignement. De la même manière que les apprentis tailleurs cherchaient à devenir membres de la guilde à part entière, avoir la possibilité de fabriquer des vêtements, eh bien, les étudiants vont ainsi avoir la licence qui va leur permettre d'enseigner. Le mot « université » est un mot espagnol qui, au départ, signifie tout simplement une corporation commerciale. Voyez-vous, comme quoi il y a une dérive parfois des mots. Et parmi ces ligues d'étudiants, qu'est-ce qu'on enseigne? Eh bien, on enseigne les 7 arts, plus les 2 arts souverains, la philosophie et la théologie. Au terme du cursus, les étudiants sont soumis à un examen qui consiste en un débat public qui suit une conférence qu'ils font. Ça veut dire qu'ils commencent par faire une conférence sur un sujet donné, puis ensuite, le public peut les interroger, les contredire, etc. Très vite, l'université devient de toutes les guildes celle qui est la plus fermée et par conséquent la plus prisée. Et ceci pour une raison très simple, c'est que le savoir, évidemment, est un savoir qui implique que l'on ait accès à l'écrit. Or, l'écrit à cette époque, même si on commence à utiliser le papier, est une denrée extrêmement rare. Les livres sont d'un prix exorbitant. D'abord, à cause des matériaux dans lesquels ils sont conçus, les parchemins, c'est-à-dire les peaux d'animaux. Préparer de telles peaux d'animaux, c'est un travail considérable. Ça exige de nombreux animaux, si on pense par exemple à la Bible. Et l'on cite le cas d'un riche marchand qui voulait se payer la Bible et qui avait dû sacrifier pour cela un troupeau de moutons tout entier. Rien que pour fabriquer le parchemin sur lequel la Bible était écrite. Or, ensuite, la Bible était copiée à la main. Pas seulement la Bible, enfin tous les livres étaient copiés à la main. C'était le travail des moines, essentiellement. Alors vous imaginez ce que ça représentait comme travail. Bon. L'université implique une bibliothèque. Donc vous imaginez ce que pouvait représenter une bibliothèque au Moyen-Âge, une fortune, quoi. Si bien que pour pouvoir étudier, pour pouvoir accéder à cette bibliothèque, il fallait bien rentabiliser les choses, il fallait avoir les moyens de payer un prix exorbitant pour pouvoir étudier. Donc, ce n'était pas à la portée du premier venu. Rien que pour faire une Bible, il fallait compter une année de travail pour un moine qui avait un copiste qui avait l'habitude de le faire. En 1210, la plus célèbre université du monde était l'Université de Paris. La première et la plus célèbre. Elle a été fondée par Abelard et très vite, elle est devenue la plus célèbre de toute l'Europe. Les étudiants avaient en général entre 13 à 40 ans. On pouvait commencer à étudier dès l'âge de 13 ans, etc. On avait plutôt, c'est aussi entre 30 et 40 ans quand même, un étudiant moyen. Autant dire que les étudiants se devaient d'être célibataires. Ce n'était pas question évidemment d'avoir une famille, d'entretenir une famille quand on avait besoin de payer des sommes aussi astronomiques pour pouvoir étudier. Alors, il y avait autour des universités des hospices où les étudiants étaient hébergés, moyennant des sommes quand même très raisonnables. Ce n'était pas ça qui coûtait le plus cher. Mais évidemment, comme ces étudiants étaient quand même d'un âge assez avancé, 30 à 40 ans, célibataires, autour de ces hospices, car l'université, c'était quand même d'abord un endroit religieux. N'oublions pas, on étudiait essentiellement la théologie. Mais évidemment, l'homme est l'homme. Alors, il y avait non seulement des hospices autour de l'université, mais des maisons de prostitution, pour que ces messieurs, de temps en temps, un petit peu se satisfaire leurs instincts les plus bestiaux. Après ça, on revenait étudier la théologie sans problème, quoi. Alors, l'année scolaire était de 11 mois. Il y avait un mois de vacances l'été, et puis quelques jours de vacances à Noël et à Pâques. Voyez-vous, ça ressemblait quand même déjà pas mal à ce qui existe aujourd'hui. L'enseignement se faisait en latin, il fallait absolument connaître le latin, mais c'était en même temps un avantage, parce que ça permettait des échanges d'université à université. Ça veut dire qu'on pouvait commencer des études à tel endroit, par exemple à Paris, on pouvait ensuite continué à Oxford, qui était une des universités les plus prisées au XIIIe siècle. Bon, il y avait des universités en Italie qui étaient aussi extrêmement célèbres. Pavie et Bologne étaient les plus importantes. En Angleterre, j'ai cité Oxford, j'ai cité aussi Cambridge, qui sont les deux universités qui sont restées aujourd'hui aussi en Angleterre les plus célèbres. En Espagne, il faut citer Tolède. Et puis, en Sardaigne, il y avait la ville de Salerne aussi, qui était une université extrêmement réputée. Alors, voyez-vous, le XIIIe siècle, pour résumer, est un siècle de transition. Un siècle qui est l'achèvement de, si vous voulez, toute la réflexion du Moyen-Âge, avec ce qu'il a de meilleur et de pire. Et puis, en même temps, l'apogée de la chrétienté, la notion de chrétienté sur laquelle nous nous pencherons la prochaine fois, en même temps le moment où cette notion de chrétienté va commencer à se lézarder, à se fissurer. Et à partir du XIIIe siècle, on s'achemine vers deux grands mouvements qui vont naître dans les siècles qui vont suivre. Premièrement, l'humanisme, et donc la Renaissance, et puis avec la Renaissance et l'humanisme, la réforme, la contestation du système romain. Dès le siècle suivant, les premières contestations du système romain, qui ont déjà commencé au XIIIe siècle avec les Vaudois et les Cathares, mais qu'on continue à s'amplifier avec le mouvement hussite, un mouvement typiquement évangélique, et puis qui va être le précurseur de la réforme. Voilà, on verra ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?